Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Raison gardée, diffusée sur RCN, une radio qui nous est chère et qui, on espère, pourra continuer à vivre malgré les tourments budgétaires qui guettent tout le monde culturel et notamment le monde associatif et le monde de la radio libre. Avec aujourd'hui au micro Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Sylvie.
Qui est notre invité pour parler d'un dossier que nous avons déjà traité et pour prolonger le traitement de ce dossier sur la question de la fin de vie et le procès intenté à certains membres d'une association Ultime Liberté dont tu fais partie.
Oui.
Et je remercie tout de suite Joris à la technique. Merci Joris. Alors, on peut rappeler peut-être pour commencer, effectivement, que à la libre pensée, nous sommes très très soucieux de défendre les droits et les libertés individuelles et sur la question de la fin de vie. Dans le département, nous travaillons avec ton association, l'association dont tu fais partie, Jean-Claude, Ultime Liberté. Qui est une association qui existe depuis combien de temps déjà?
2009.
2009. Donc c'est une association tout à fait officiellement déposée en préfecture, avec des statuts, une association nationale qui milite pour une évolution de la loi concernant la fin de vie. Cette loi sur la fin de vie, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu une des arlésiennes des différents mandats présidentiels et notamment des deux derniers mandats de Macron. On avait eu une consultation citoyenne sur ce sujet de la fin de vie, dont les résultats allaient plutôt dans le sens de ce que vous défendez à Ultime Liberté, c'est-à-dire vraiment une progression de la loi et une ouverture des droits pour que chacun puisse finir sa vie dignement. Et puis, le projet de loi a été annoncé à l'Assemblée nationale, puis reporté, puis réannoncé, reporté, etc. Il a finalement été traité à l'Assemblée nationale en deux thèmes séparés. Alors, c'est-à-dire, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la loi devait porter sur la question des soins palliatifs et de la fin de vie. Et finalement, le texte a été coupé en deux points. Est-ce que c'était une bonne chose de procéder comme cela pour vous à Ultime Liberté ou pas?
Pour nous, c'est une arnaque. En quel sens? On sait que sur les soins palliatifs, il y a sinon unanimité ou pratiquement unanimité. Mmh. Tout le monde souhaite, nous-mêmes, hein, même si on nous fait le procès contraire de temps en temps, tout le monde souhaite qu'on ait un système de soins palliatifs digne de ce nom. Ce n'est pas le cas en France. Hein. Il y a même des départements où il n'y a rien. Mmh. Rien du tout. Et donc, s'ils n'avaient pas séparé le texte en deux, ça les inquiétait parce qu'ils se disaient, du coup, ça fera passer automatiquement le droit, le droit de mourir, l'euthanasie et le suicide assisté. Et c'est pour ça qu'ils ont découpé ça en deux. Ils sont d'un courage absolument phénoménal, ces gens-là, il ne faut pas l'oublier. Mais c'était... Bon, alors, de toute façon, nous, on a pris acte, hein, il n'y avait pas... Mais quand on voit la tournure que prennent les événements, c'est quand même assez dramatique. Parce que la France est, de toute évidence, la lanterne rouge, mais est de loin. Parce qu'il y a quelques années, bon, je citais toujours les mêmes, je disais la Belgique, je parlais de certains États des États-Unis, on parlait de la Suisse... Aujourd'hui, on est, mais alors vraiment, complètement cerné en Europe par les pays qui ont légiféré. Je ne dis pas, bien sûr, que ces pays ont légiféré de façon totalement satisfaisante, mais en tout cas, la plupart reconnaissent le droit à l'euthanasie et le droit au suicide assisté. Alors, c'est intéressant parce que les gens... Et ça vaut le coup d'expliquer ça aux auditeurs. Quand, en 2005, Claes, à la demande de Chirac, je crois, pond son projet de loi, tout le monde se dit « Ah, ben enfin, on y va, c'est bien !» Or, et là je suis prêt à en faire la démonstration, c'était une arme contre l'euthanasie et une arme contre le suicide assisté. En quoi dans le temps, 20 ans, 30 ans avant, et les médecins en témoignent, quand un de leurs patients était vraiment, vraiment au dernier, en dernière limite, eh bien, il s'arrangeait discrètement, et souvent avec l'accord de la famille d'ailleurs, bah pour envoyer une petite perf bien sentie, et qui permettait aux gens de partir sans souffrance inutile. Dès lors que la loi Leonetti est sortie, elle prévoit, elle, des sanctions. Ce qui fait que les médecins qui, jusque-là, n'hésitaient pas trop, bah, pas tous, hein, bien sûr, mais quand même, ils étaient assez nombreux, se disent, mais c'est fini, on risque de se faire radier de l'ordre des médecins. Ça a donc fait régresser considérablement la situation. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'à chaque fois, on nous dit, ah, mais c'est la politique des petits pas. Il y a eu la loi Leonetti, qui est, à mon avis, la loi la plus hypocrite qu'on pouvait imaginer. Mais la loi de 2010, on a dit nouveau petit pas. Ça a changé quoi? Simplement, on a ajouté une disposition qui permet de laisser les gens mourir de faim et de soif, ce qui est pas mal, hein. Mais c'est tout. Or, nos dirigeants successifs, tu le disais, nous ont tous promis, on va y aller, partons. Ça me fait penser à la pièce Les Horaces et les Curias, moi, ça, toujours. Alors, il y a eu, récemment, il y avait eu, Hollande, hein, qui avait, je ne sais plus, la proposition 32, ou je ne sais plus quoi. Après, il y en a eu d'autres. Maintenant, il y a Macron qui dit, il faut que cette année, ça soit l'année de la loi. La proposition qui a été votée, qui n'est pas encore applicable, mais qui a été votée par l'Assemblée nationale, sur un point en tout cas, sur un point, elle constitue un progrès. Alors, c'est assez marrant parce que Macron, qui vraiment doit s'effrayer à chaque fois qu'il voit une chauve-souris passer, refuse qu'on parle de suicide assisté et d'euthanasie. C'est incroyable.
Hein, même si le Cornu avait annoncé à l'Assemblée nationale une entière liberté de parole des députés, oui. Que tous les sujets seraient mis sur la table. Oui. Mais on sait qu'il y a quelques mots et quelques propositions qui effraient
Ah oui,
Macron.
Il y a des mots à éviter. De toute façon, on est en plein, tu sais, je le dis souvent, il n'y a plus de femmes de ménage, il y a des techniciennes de surface, c'est tout à l'avenant. C'est un peu ridicule. Il y a un ou deux petits points positifs, mais ça ne fait pas de cette proposition, enfin de ce projet de loi, quelque chose d'acceptable. Il y a un élément intéressant qui nous a un peu surpris, c'est ce qu'on appelle le fait qu'on pourrait, nous, enfin les associations, porter une affaire devant le tribunal au cas où quelqu'un refuserait d'appliquer la loi. Le mot va me revenir, c'est pas très inquiétant, c'est le délit d'entrave, voilà. Ça, c'était intéressant, hein. Il y avait deux ou trois petites choses, mais c'était, même si ça disait pas son nom, une reconnaissance, tout de même, une reconnaissance de l'euthanasie et du suicide assisté.
C'est-à-dire ne pas dire le droit de, mais reconnaître le délit d'empêcher de. C'est un peu ça l'idée. D'accord.
Alors, ça nous amusait beaucoup parce qu'on se disait, demain, nous qui sommes attraits devant les tribunaux, c'est nous qui allons attaquer les autres en disant, vous n'appliquez pas la loi. C'est un peu cocasse. Hein. Donc, c'est une loi qui n'est de toute façon pas satisfaisante.
Elle doit arriver au Sénat, là, si j'ai
alors,
bien suivi
elle,
là, la navette.
Elle arrive au Sénat le 20, normalement, c'est-à-dire dans 8 jours. Mais alors, il faudrait que je t'envoie ça. On nous a envoyé une lettre ouverte, appelons ça une lettre ouverte, de gens bien-pensants, parce qu'on sait qui sont nos adversaires, hein, qu'ils ont adressé au Sénat. Mais c'est un modèle de conneries. Alors, je crois qu'il faut dire les choses par leur nom. Hein, un truc totalement réactionnaire, où là il s'agit précisément de dire attention au Sénat. Même si vous votez la loi en l'état, alors que pour nous elle n'est pas suffisante, vous allez tout simplement. Alors c'est une rupture anthropologique, tu te rends compte. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de tuer. Et on va nous resservir l'interdit de tuer, qui est une connerie, puisque nous on est tous pour l'interdit de tuer. Bien sûr, heureusement, autrement comment est-ce qu'on pourrait vivre en société? Mais est-ce que c'est tuer quelqu'un? Tuer, c'est bousiller, déglinguer, etc. une personne sans qu'il l'ait demandé, puis avec violence. Est-ce que c'est ça qu'on propose? Nous, pas du tout, bien sûr. Ce qu'on demande, c'est que les gens puissent bénéficier d'une aide, alors soit sous forme d'euthanasie, et soit sous forme de suicide assisté. Ce que nous réclamons à corps et à cri, et qui nous fait passer de temps en temps pour des radicaux, c'est le droit à l'autodétermination. Tu as prononcé un mot tout à l'heure qui a fait tilt chez moi. Tu as parlé de droit individuel. Et on oppose aussi les droits individuels à l'individualisme. On dit, vous êtes des individualistes. Et c'est faux aussi. Moi, je suis à mort, c'est le cas de le dire, tiens, dans ce domaine-là, pour qu'on défende ce droit qui est un droit individuel et qui intéresse tout le monde. Mais je fais partie des gens, tu le sais, comme toi, qui sont très sensibles à la solidarité, etc., et au vivre ensemble. C'est pas la même chose.
Il y a plein d'autres situations dans lesquelles la loi nous garantit la possibilité de vivre selon notre conscience, selon nos choix personnels, effectivement nos choix individuels, mais ce n'est pas pour autant de l'individualisme. Ça ne nous rend pas complètement indifférents aux conséquences et des actes et des effets des lois sur la vie en société, c'est évident. Et c'est vrai que les sénateurs, là, de ce que j'ai vu en tout cas, contestent toujours l'idée du droit à l'aide à mourir. Ils parlent d'assistance médicale. Mmh. Il y a toujours aussi un point crucial qui est l'idée du pronostic vital qui doit être engagé. Alors une souffrance longue, qu'on soit quelque... Voilà. Sur cette idée de l'évaluation de la mort à venir qui
qu'on
pose un véritable problème.
Comme des dingos
problème.
Pendant des mois, etc.
Voilà. Mais... Et à quel moment on considère, quelle durée de souffrance faudrait-il tolérer pour justifier le fait de... d'enfin avoir le droit à cette assistance à mourir. Là, c'est sûr que ça pose les problèmes sont cruciaux, sont fondamentaux, mais on voit bien où sont les résistances. L'affection devrait être grave, incurable, en phase avancée. Autant de points qui restent à discuter, en fait, pour une loi véritablement progressiste, à vos yeux.
Mais pour certains, Sylvie, c'est dramatique. Parce que tu viens de résumer fort justement les conditions restrictives qui sont avancées. Ça veut dire, prenons un exemple, un malade de Charcot. C'est quelqu'un qui peut durer 2, 3 ans, 4 ans. Au début, il a des petits troubles, puis après, petit à petit, il commence à avoir des troubles, difficultés à utiliser ses mains et tout. Et il termine au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend, ils n'ont pas tous la même évolution. Ça se termine par un étouffement. Il ne faut pas oublier que c'est comme ça, c'est-à-dire que les derniers muscles qui sont touchés, a priori, c'est les muscles respiratoires, ce qui fait que c'est des gens qui vont mourir dans des conditions dramatiques. Et ces gens-là, ils ne pourront pas bénéficier de la loi, sauf quand ils auront souffert pendant 3-4 ans, justement. Hein? Parce que s'ils disent « moi, je suis Charcot, donc je suis condamné », on sait très bien, eh ben, on devrait pouvoir leur dire « écoutez, quand vous considérerez que votre situation n'est plus supportable, on vous aidera ». Mais là, on va leur dire, on ne peut pas. Les médecins ne pourront même pas, même s'ils le veulent. Donc, c'est assez dramatique. Et bien entendu, c'est les restrictions habituelles. Tu sais, quand on vote une loi, quelquefois, les décrets d'application la déforment complètement. Est-ce que tu te souviens, j'en ai parlé ici, de l'Autriche. Ah, ça, c'est extraordinaire. En Autriche... le Parlement, pas le Parlement, enfin, en tout cas, le Conseil constitutionnel, et ça, c'est remarquable, il y a plusieurs pays dont le Conseil constitutionnel ont reconnu le droit à l'autodétermination. Alors, des fois, un peu de façon hypocrite. Là, le Conseil constitutionnel en Autriche dit « il faut adopter un texte qui autorise l'euthanasie et le suicide assisté ». Bon, mais ce n'est pas lui qui fait la loi. C'est comme en France. Le Conseil constitutionnel donne un avis, et puis après, c'est renvoyé...
aux assemblées législatives.
À l'Assemblée législative. Or, en Autriche, on a un gouvernement qui est... Allez, on va essayer d'être gentil en ce début d'année, largement conservateur, pour ne pas dire autre chose. Et il vote une loi. Une loi qui la rend, mais alors qui rend le dispositif totalement inopérable. C'est tellement vrai que je crois qu'il y a eu 67 euthanasies en tout et pour tout en 2025 grâce à ça. Alors, il faut quoi ? Il faut déjà que ces directives anticipées soient rédigées, d'accord ? On y reviendra si on veut sur les directives anticipées. Il faut qu'elles soient enregistrées devant notaire. C'est pas mal, parce que ça met déjà un petit obstacle supplémentaire.
La démarche est déjà un obstacle.
Et il faut que l'autorisation, je dis bien l'autorisation, soit donnée par deux médecins, dont obligatoirement un médecin de soins palliatifs. Et là, on a tout compris. Les médecins de soins palliatifs, dans leur énorme majorité, sont hostiles pour différentes raisons. Pour des raisons éthiques, certains, pour des raisons religieuses, d'autres, mais aussi parce qu'il y en a qui pensent qu'on va leur bouffer un peu leur population. Hein. Et donc, en Autriche, Eh bien, ça a fait régresser les pratiques euthanasiques. Je voudrais donner aussi une petite précision, parce que celle-là, elle est vachement importante. Hein. Tu as parlé de tout à l'heure, juste il y a quelques minutes, quand on parlait du droit à l'autodétermination. Ça va me revenir, parce que je mélange un peu tout. Ah.
Tu parlais de la conscience.
Conscience.
Parce que tu reparlais des médecins, peut-être moi je vais rebondir là-dessus.
Ah, on va parler
en France
des médecins,
aussi,
c'est important.
Aussi quelque chose qui revient souvent, c'est la part de décision du médecin, l'autorité médicale dans la décision et dans l'autorisation éventuellement. Hein, ce que tu racontes en Autriche, c'est que voilà, il faut vraiment une autorisation médicale. Or, c'est aussi un point sur lequel, à Ultime Liberté, vous battez.
Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on sort, on a eu l'occasion de le dire, d'un procès devant la cour le tribunal correctionnel de Clichy. On vient d'en voir, c'est récent, c'est vendredi. On parlera tout à l'heure des condamnations.
Il y a trois jours par rapport au jour de notre enregistrement.
Ouais. Et au cours de ce procès, qui a été un peu étonnant, parce qu'on nous a effectivement donné la parole pendant 3 semaines, ce qui est exceptionnel.
Et parmi les accusés, il y avait un médecin.
Il y avait
c'est
un médecin
ça que tu faisais
qui ne fait
le
pas
lien.
Partie de notre association.
Non, mais qui faisait partie des personnes
qui fait
mises
partie
en cause.
Alors lui, c'est extraordinaire, parce qu'il dit à corps et à cri qu'il fait des euthanasies depuis longtemps, et il le fait. Et il n'est pas poursuivi. Je lui disais, il était à côté de moi vendredi, je lui dis, mais toi, tu ne devrais pas être là, tu
Alors,
devrais être aux assises.
Il n'est pas poursuivi, je pensais qu'il était poursuivi aussi, lui.
Il est poursuivi.
Ah oui, il est poursuivi, d'accord.
Non, mais il n'est pas poursuivi pour euthanasie.
Ah oui, d'accord.
Alors
oui.
Je lui disais, mais tu devrais être normalement devant la cour d'assises, être condamné pour crime. Alors, il rigolait. Non, il est condamné comme nous pour avoir donné l'adresse à des gens qui, pour leur permettre de se procurer un produit. Mais tu vois... Il y a des arguments. De temps en temps, on peut entendre des arguments. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient pas très favorables à nos positions. Après tout, pourquoi pas. Mais encore faut-il ne pas développer des arguments qui ne sont que des arguties. Quand on nous dit ce qu'on nous reproche beaucoup, et on l'a vu au cours du procès. Et moi, j'ai vraiment beaucoup insisté là-dessus. On nous dit. Le fait que vous éliminiez du circuit les médecins constitue un obstacle grave en ceci que les gens que vous aidez ne peuvent bénéficier d'informations relatives à des options thérapeutiques possibles, etc. Or, c'est complètement ridicule de dire ça. Pourquoi ? La personne qui vient nous voir, puisqu'on parle de ça, nous, elle a... Un jour, contacter son médecin généraliste en disant « je ne suis pas bien ». Et puis, il l'a envoyé vers des médecins spécialistes qui ont fait des propositions. Éventuellement, ils se sont retrouvés devant des chirurgiens qui leur ont proposé des interventions chirurgicales, éventuellement des soins palliatifs. Tout ça, ça a été fait. Ou alors, c'est que les médecins ne font pas leur boulot. Donc, ils ont eu connaissance de toutes les options thérapeutiques.
Ils sont au contraire arrivés au bout d'un parcours
Exactement.
Médical qui ne réussit pas à les soulager ou alors leur garantir de sortir de la maladie ou de pouvoir vivre malgré elle. Et eux décident de
Donc c'est un argument qui est complètement fallacieux. Parce que ces gens-là, ils viennent parce qu'ils nous disent... parlons de ceux qui sont en fin de vie, parce qu'on pourra parler des autres aussi, mais on m'a fait des tas de propositions, on m'a même proposé d'aller en soins palliatifs. Certains nous disent, je sors de soins palliatifs, mais maintenant c'est terminé, je veux en finir. Ces gens-là, quand ils viennent, ils ont fait tout un itinéraire médical, mais aussi un itinéraire affectif, intellectuel, et quand ils viennent nous voir, ils savent pourquoi. Ils savent qu'ils n'auront pas l'aide qu'ils souhaitent ailleurs. Et donc, quand on nous dit « vous les privez d'informations sur les possibilités thérapeutiques », c'est complètement idiot.
Oui, c'est justement, je relisais les statuts de votre association. L'idée, c'est vraiment de défendre le choix de finir sa vie comme on l'entend, de même qu'on a d'autres choix dans la ville, les choix dans nos façons de vivre, comme dans vos statuts, vous pointez les choix sexuels, la liberté de procréer, le droit à la contraception, à l'avortement, les modalités de procréation, etc. Et que parmi ces libertés qui ne sont pas encore garanties, eh bien, on trouve la question de la fin de vie. Je propose une petite pause musicalement joyeuse, même si le thème est lié à notre sujet, c'est Le Moribond de Jacques Brel.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, tu es bien vivant. Et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou.
RCN, raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
Retour au micro avec Jean-Claude et l'ami Charles qui est arrivé. Bonjour Charles.
Salut Charles.
Salut.
Donc nous parlions de la question de la fin de vie et l'évolution de la loi. On a un petit peu fait le tour de la situation actuelle, donc une loi qui est bientôt, donc dans une semaine, vers le 20 janvier, en discussion au Sénat, qui doit procéder à un vote solennel avant la fin de ce mois de janvier, normalement. Et si nous en parlons à nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, donc les adhérents qui étaient en procès, ont entendu la sentence prononcée par la justice à Paris. Alors, je rappelle rapidement que en 2019, une perquisition d'ampleur a lieu en France suite à des informations qui venaient des États-Unis.
Exact.
Concernant une circulation de produits, un produit qui est utilisé par des personnes qui souhaitent en finir avec leur vie, qui ont fait ce choix-là. Et vous étiez quelques-uns, membres de l'association Ultime Liberté, accusés d'avoir facilité l'accès à ce produit, enfin d'avoir expliqué aux personnes comment accéder à ce produit. Ce qui donc contrevient à la loi française telle qu'elle est actuellement. Vous avez eu droit à 3 semaines d'un procès. Tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, Jean-Claude. Tu disais qu'au moins c'est un temps pendant lequel vous avez pu développer vos arguments, développer votre vision de l'état actuel de la loi, de ce qu'il serait souhaitable de modifier dans cette loi.
Alors là, on a été agréablement étonnés, pas surtout, hein, bien sûr, parce que un procès en correctionnel, ça peut durer 2 heures, 5 heures, une journée. Hein, quelqu'un qui a eu la maladresse de mettre une claque à sa femme.
La maladresse, bon, je coupe immédiatement le micro de Jean-Claude, qui fait exprès de dire des choses qui fâchent.
Il peut passer en correctionnel, ça va durer 1 heure ou 2 heures. Nous, on s'attendait quand même, alors on nous avait dit 3 semaines de procès, mais on ne comprenait pas pourquoi. Alors, il faut quand même justement expliquer un peu ça. On nous a donné la possibilité de nous expliquer au-delà de nos espérances. Il y en a qui ont parlé 1 heure et demie, c'est à peu près mon cas. Il y en a qui ont parlé 2 heures à la barre. C'est quand même fondamental. La présidente, même si à la fin on parlera du jugement, la présidente a laissé les gens s'exprimer. À aucun moment, elle a coupé la parole en disant « Non, mais ça, on le sait, ça, c'est pas la peine. Hein. » Et donc, il y a eu, en plus, des grands témoins, ce qu'on appelle les grands témoins, de Clauset, 90 et quelques années, que j'ai revu vendredi, là. Il est à la barre, debout, il tient 1 heure, sans papier, rien du tout. Il explique que... Alors, à un moment, il dit, ben moi, je ne suis pas forcément complètement sur la ligne de duel, mais c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui font ça par humanisme. Donc, non seulement il ne nous condamne pas, mais au contraire, il apporte de l'eau à notre moulin. Il y a le philosophe...
Comte-Sponville, André Comte-Sponville.
Comte-Sponville fait à peu près la même chose. C'était intéressant, puis bon, c'était pas une découverte, on le connaît. Et puis il y en a eu un troisième, c'est Jean-Louis Touraine. Tous les trois, puisque c'est les trois témoins qui sont passés à la barre, ont défendu, mais clairement, l'idée du suicide assisté et de l'euthanasie. C'était vachement important. Hein. Et alors, pour l'anecdote, parce que j'y pense, on était au deuxième étage du tribunal correctionnel de Clichy, et en face, au bout du couloir, il y avait...
C'était Nicolas Sarkozy en même
Sarkozy
temps.
Nicolas Sarkozy en personne. Voilà. Et donc, on a eu le temps de s'expliquer. La procureure a fait un pas de clerc, à mon avis, au début, puisqu'on lui a donné la parole tout de suite. Elle s'est emportée, elle a fait un discours assez virulent, et tout le monde était atterré. Et c'est tellement vrai qu'on a bien vu que pendant au moins 5-6 jours, on n'entendait plus, parce qu'elle avait dû se rendre compte qu'elle était allée un peu loin. Bon. Mais en tout cas, ça nous a permis à tous de nous expliquer. Et tous ont dit de façon unanime, nous sommes convaincus qu'il faut accorder le droit à l'autodétermination. Il faut que chacun puisse décider s'il veut vivre ou mourir. Parce que nous, ça nous emporte un peu plus loin que les autres, parce qu'on dit, mais en quoi, moi, par exemple, serais-je fondé à dire à quelqu'un, non, mais vous n'êtes pas malade, vous n'avez rien, je ne ferai rien pour vous. Hein.
Mais nous, cette condition de la maladie incurable, du pronostic vital engagé, etc.
Pour nous, on n'en veut pas.
Voilà, dans l'association Ultime Liberté, c'est une condition que vous ne voulez pas.
Oui, parce que nous considérons... Si on parle d'autodétermination, il faut aller au bout. Hein. Est-ce que c'est un médecin de dire « je vous autorise à mourir » Est-ce que c'est un juge? Un juge, on ne serait pas contre le contrôle du juge, hein, quand il y a des difficultés, etc.
Bon. Ce qui répondrait d'ailleurs à ceux qui disent « mais ce sera un peu n'importe quoi ».
Mais bien sûr.
On va se libérer du grand-parent envahissant,
voilà,
de la personne avec un handicap physique ou psychologique lourd, etc. Voilà.
Oui, bah bien sûr, parce qu'on peut imaginer, quand on nous dit...
C'est une crainte que les gens expriment souvent, hein,
oui,
justement, les personnes en situation de faiblesse.
Oui, c'est ça. Mais bien sûr, tous les arguments les plus foireux nous sont opposés sans arrêt. Hein. On nous dit il va y avoir des abus de faiblesse, etc. De toute façon, nous, notre position, c'est si un jour la loi sort comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'elle reconnaisse très clairement le droit à l'autodétermination, c'est pas à moi de décider si quelqu'un doit vivre ou mourir. Il faudrait mettre en place une instance, comme ça se fait dans certains pays, je pense à la Suisse ou ailleurs, qui puisse non pas dire « nous sommes d'accord ou pas d'accord », mais qui puisse entendre la personne pour éventuellement lui dire « est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions pour vous ?» Des choses comme ça, pour pas que les choses se fassent de façon brutale et sans qu'on soit sûr qu'il y a un véritable consentement.
Et d'ailleurs, pendant le procès, il m'a semblé que la juge posait très souvent cette question de votre façon d'accompagner les personnes, c'est-à-dire des questions sur la fréquence de vos rencontres, de vos échanges avec les personnes à qui, et c'est ce qui vous était reproché, vous avez donné la connaissance des moyens pour accéder à un bien produit sûr. Létal. Et elle est vraiment, peut-être moi une impression que j'ai eue en lisant les comptes rendus ou en y assistant une journée, mais j'ai eu l'impression que vraiment c'était quelque chose qui lui paraissait important. Elle voulait comprendre cela, comment vous accompagnez les personnes en tant que membre d'Ultime Liberté.
Elle voulait comprendre, mais aussi peut-être nous mettre ça un peu sur les bretelles. Attention. Parce qu'effectivement, elle y est revenue à de nombreuses reprises. Déjà, il a fallu
En insistant sur votre formation, qu'est-ce qui vous permettait de...
Non, mais la formation, alors ça... Prenons les choses les unes derrière les autres. Tu parles de formation, c'est quoi la formation, là? En dehors du côté relationnel, des précautions à prendre, parce que, bien entendu, on imagine bien que quelqu'un vient me voir demain, me dit « je voudrais en finir, donnez-moi l'adresse, je commande mon produit », je lui dis « c'est pas exactement comme ça qu'on travaille ». Ça veut dire qu'on va le rencontrer une fois, deux fois, trois fois, et d'ailleurs toujours en binôme, au minimum, hein, c'est une garantie, et on veut s'assurer que la personne... Imagine un gamin de 25 ans ou une fille de 25 ans qui vient, qui nous dit « mon copain ou ma copine m'ont laissé tomber, je ne supporte pas ça, aidez-moi ». Là, il est évident qu'on va lui dire « ce n'est pas exactement à la bonne porte que vous frappez ». Il y a d'autres choses à préconiser dans ce cas-là, bien sûr, et certainement pas un suicide assisté ou une euthanasie. Ce qu'elle voulait nous faire dire, c'est « vous ne prenez aucune précaution, vous faites ça n'importe comment ». Or, il nous est arrivé de rencontrer, pour ma part, ça m'est arrivé déjà, de rencontrer la même personne 5-6 fois. Et ça s'est fait sur une année complète, même un peu plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous accuser de faire n'importe quoi. On voudrait nous décrire un peu comme les cavaliers de l'Apocalypse. Hein ? Voilà. Bon. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous verrez, c'est intéressant.
Ça t'est encore relaté dans l'article du Monde dernièrement. Là.
À l'article du Monde, on en parlera
dans la presse.
C'est vraiment, à mon avis, ils sont affiliés à une autre association qui ne nous aime pas et qu'on n'aime plus non plus.
Oui. Mais c'est dommage, et d'ailleurs, on souhaiterait faire une tribune en leur demandant de la publier. Parce que là, franchement, ils sont allés trop loin et c'est un article dramatique.
Moi, je pense que c'est indispensable d'avoir un droit de réponse là-dessus.
Si tu demandes droit de réponse, ils diront non. Mais une tribune, c'est un peu différent. C'est une façon différente d'aborder les choses.
Alors, on en parlera peut-être effectivement de la réaction dans la presse, enfin, ce qui a pu être écrit dans la presse.
Mais en tout cas, tu as raison.
Dans le monde.
Elle nous faisait quand même des petites invites pour nous faire des choses trappes. On sentait bien qu'elle n'était pas d'une hostilité terrible, mais en même temps, elle insistait toujours sur les endroits où elle pensait que ça ferait mal. Exemple, on l'a dit tout à l'heure, le problème du médecin. C'est revenu systématiquement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Moi, je l'ai souvent dit, même ici, les médecins nous disent « Ah, mais on n'est pas là pour tuer ». Notre boulot, c'est de soigner. Bon, ben déjà, il faudrait qu'ils reviennent un peu sur leur connaissance du français, hein, qu'ils aillent voir ce que signifient les mots. Tuer, c'est donner la mort à quelqu'un avec violence, une personne qui ne l'a pas demandé, on est bien d'accord. Et ça, tous les dictionnaires le disent. Là, au moins, là-dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ce qu'on fait quand on répond positivement à quelqu'un qui est dans une situation dramatique, qui est demandeuse ? Et à qui on propose justement de lui donner les moyens de partir dans de bonnes conditions, sans aucune souffrance, est-ce que c'est tuer les gens ? Bien entendu, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, quand un médecin pratique une euthanasie, il ne tue pas la personne, il faut arrêter. Mais ça, c'est les arguments complètement pourris qu'on nous oppose régulièrement.
Oui, en jouant sur ce que le mot éveille dans la tête des personnes. Oui. Et donc il y avait cette question de la façon d'accompagner qui revenait très souvent. Et donc tu as dit effectivement pourquoi. Et d'ailleurs vous parliez de l'article du Monde. Le titre de l'article du Monde, il me semble qu'il est écrit en gros amateurisme.
Scandaleux.
Comme ça. Voilà. Donc là on aura l'occasion d'y revenir parce que alors. tu y étais, Jean-Claude, dans ces libérations, je crois, qui citent un peu les propos de la présidente de la 31e Chambre, qui vous a donc jugé, et qui commence par indiquer, alors là il y a une citation qui n'est pas trop longue, je me permets de la lire. La présidente a dit « Le tribunal n'est pas déconnecté des enjeux de société, de ses évolutions. Il a parfaitement conscience du mouvement souhaité par les Français dans leur grande majorité en matière de fin de vie. » Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le résultat notamment de la Convention citoyenne, mais aussi de très nombreux sondages. Bon, après, on peut toujours critiquer les sondages, mais voilà, qu'on a pu voir. « Pour autant, a-t-elle ajouté, les prévenus ne peuvent attendre d'un tribunal correctionnel qui s'érige en législateur et anticipe sur l'avènement d'une loi. » Je trouve que c'est très intéressant parce que on sent effectivement que ici, par la voix de la présidente, la justice dit « Nous entendons bien que la loi n'est pas suffisante pour le moment, que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle doit évoluer, mais dans l'état actuel des choses, et finalement pouvait-elle faire autrement que de vous condamner à quelque chose, dans l'état actuel des choses, elle ne peut pas vous donner un feu vert puisque la loi ne, lui permet de considérer que vous l'avez enfreinte, justement.
Ah, je te remercie de t'engager sur ce débat-là, il est passionnant. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les auditeurs sachent, enfin, certains le savent bien sûr, que en droit pénal, enfin en droit en France, les magistrats ont une large liberté d'appréciation. C'est-à-dire, on l'a vu, enfin là c'est pas pareil, c'était une cour d'assises, mais quelqu'un qui est condamné pour assassinat et qui est, gracié, enfin pas gracié,
Acquitté.
Acquitté, c'est pas mal. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est que la formation, pas seulement la présidente, mais ses deux assesseurs, s'engagent dans une autre voie. On a vu combien de fois des juges aller au-delà, c'est-à-dire dire, bon, la loi c'est ça, mais c'est quand même pas souhaitable, etc. C'est-à-dire qu'ils ont contribué quelquefois à faire évoluer les lois. C'est pas eux qui les votent, mais eux, ils peuvent avoir une influence, et notamment quand on considère la jurisprudence. On aurait aimé ça. En fait, elle s'est livrée, et ça nous déçoit, parce que c'est, bon, c'est une femme qui n'est pas très agressive, mais elle a fait un exercice assez scolaire. C'est-à-dire, voilà, la loi, c'est ça, donc, voilà. Alors, juste une petite précision.
C'est pour ça que je disais, un peu provocante, pouvait-elle faire autrement que de vous condamner ?
Elle pouvait, mais il y a des petits trucs comme ça qui nous passent par la tête. Moi, ça m'a fait rigoler. Quand on m'a annoncé que je n'avais plus 8 mois, mais 6 mois... Il y avait Michel Denis qui était à côté de moi. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Et je regrette peut-être.
Un autre
que
membre
pas...
de l'association, oui. Lui aussi prévenu dans ce procès.
On avait pris 8 mois chacun, avec sursis. Et j'ai dit, je me suis tourné vers Michel et je lui ai dit, bah, tu vois, c'est la période des soldes. On est redescendu à 6. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi, alors c'est un côté peut-être qui semble provocateur, mais... En tout cas, moi, je parle aussi pour moi, pas seulement pour Ruel, de temps en temps. C'est le jugement ne nous inquiétait pas. On ne se posait pas la question de savoir si on aurait, non pas 8 mois, mais 12 ou 6, parce que pour nous, c'est indifférent. En tout cas, à titre personnel, je m'en fous royalement. Hein. On peut même... Enfin, je sais que ça fait drôle quand je dis ça, mais on me condamnerait à de la prison ferme. D'abord, bon, il y a l'appel, hein, on y viendra tout à l'heure. Mais en plus, eh ben, ça me ferait quelques mois de vacances tranquilles, à pas être harcelé par les associations. Voilà. Mais non, nous, on savait de toute façon à l'avance qu'on aurait à faire appel. Le seul moyen, enfin la seule hypothèse où on n'aurait pas fait appel, c'est s'il y avait eu non-lieu, enfin pas non-lieu, mais si le jugement avait été « vous n'avez aucune peine prononcée ». Alors là, c'est un peu compliqué d'aller en appel quand t'es pas condamné. Mais là, on savait très bien qu'on irait dans cette direction-là. Il faut savoir qu'il y en a une, notre présidente, fondatrice de l'association, elle avait pris 18 mois avec sursis. Et aujourd'hui, elle a combien ? 8 mois ou 6 mois, je ne sais plus, j'ai plus le papier sous les yeux. Ou 10 peut-être, mais enfin en tout cas, ben, c'est pareil, c'est les soldes. Hein. Alors, tous les... Ben, on viendra sur le procès plus précisément tout à l'heure. Il y a une chose que je voulais dire tout à l'heure qui est essentielle, parce que elle m'avait un peu échappé. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en France, la loi ne condamne pas l'aide au suicide. On a, le droit pénal en France est très clair. Si, on, si un, une, un, comment, un acte, un comportement n'est pas sanctionné par la loi, eh ben, il n'y a pas de peine possible. Or, le, on n'a jamais osé voter une loi disant qu'on n'avait pas le droit d'aider les gens à mourir. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui fait qu'on voit que quand on nous a mis dans la nasse, quand on nous a perquisitionnés, quand on nous a entendus en garde à vue ou chez le juge d'instruction, à aucun moment on nous a dit « on vous reproche d'avoir aidé des gens à mourir ».
Non, c'est vraiment le, l'utilisation, enfin la, non, le fait d'avoir... sur les substances illicites. Alors, je ne sais plus quel est l'intitulé exact que la justice a mis derrière ça. Vous êtes en possession, non, vous avez... aider à se procurer des substances illicites.
On a fait, on a soit à titre personnel, soit à titre de complicité, moi je ne suis qu'un petit complice, hein, bien sûr, on a aidé les gens à commander un produit qui est interdit à la vente
complicité,
en France.
Donc, mais le trafic de substances illicites.
Toi qui as de la culture, et Charles aussi, vous vous rappelez comment on a coincé Capone ? Capone, Al Capone, il a été coincé sur des problèmes de fisc. C'est comme ça qu'ils l'ont eu. Et puis, il est mort en tôle, d'ailleurs. Mais c'est un peu la même chose, là. Parce qu'on ne nous accuse pas d'avoir aidé les gens à mourir. On nous dit, vous avez importé ou été complice d'importation d'un produit illégal. Ce qui est quand même un peu invraisemblable. Hein. Et en même temps, la juge...
C'est-à-dire que sur le cœur du sujet, en fait, la loi n'a pas vraiment prise sur... Sur les événements.
Alors donc, eh ben, c'est vraiment un exercice de style hein, qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient pas, après 3 ans d'investigation, quand on pense au pognon de dingue que ça a coûté, cette opération-là, et 153 fois 3 gendarmes le même jour à la même heure pour des perquisitions, 9 d'ailleurs pour notre présidente, hein, tout seigneur, tout honneur, ça coûte du pognon. Après, il y a eu des gardes à vue. Les gardes à vue, ça coûte du fric aussi. Il y a eu, alors à chaque fois, tu as 2 gendarmes qui enregistrent des dépositions, etc. Moi, ça a duré 13 heures. Il y en a une, la présidente, ça a duré 2 jours. Bon. Ensuite, on passe devant un juge d'instruction. Moi, pour ma part, j'y suis passé pendant 8 heures. On imagine tout ça, mais c'est vraiment invraisemblable, le fric que ça a coûté, les écoutes téléphoniques, etc. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se disait... je me souviens, le juge d'instruction me dit, M. Couturier, à la fin, il me dit, je vais vous faire une proposition, mais... Vous ne répondez pas tout de suite. Je vous en prie, prenez votre temps. Ça peut être demain, ça peut être dans 8 jours, dans 10 jours, ce n'est pas un problème. Il y a 3 solutions. Soit il y a non-lieu. Il n'y aura pas non-lieu. Alors, on s'en doutait un peu. Soit vous allez devant le tribunal correctionnel, ce qui nous est arrivé. Donc. Soit il y a une 3e solution intéressante, c'est une procédure qui ressemble à la procédure à l'américaine. Le plaidé coupable. En France, s'appelle la reconnaissance préalable de culpabilité. Et en gros, alors je le dis ça à ma façon, mais en gros, tu vas devant un juge, il n'y a personne, hein, il n'y a pas de... tranquille, hein, quand même. Et puis tu dis, je suis coupable, il faut le dire, hein, je suis coupable de... Et là, il te passe la main dans les cheveux, il te dit, oh, c'est pas beau ce que vous avez fait. Bon, allez... On va vous mettre 1 mois avec sursis, puis 10 euros d'amende. Voilà. Et moi, je lui ai dit, ben, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est niette. Et c'est marrant parce que tous nos copains et copines ont eu la même réponse, alors qu'on ne s'était pas concerté là-dessus. Hein?
C'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'aller en appel.
Absolument.
Et d'aller le plus loin possible dans votre procès, faire appel après à... Jusqu'où pensez-vous aller ?
Alors,
appel d'abord, ça veut dire faire appel.
C'est fait déjà, on a
c'est
déjà fait appel.
D'accord. Et si cet appel-là ne vous donne pas satisfaction.
Eh bien, il y a éventuellement la Cour de cassation. Oui. Et puis après, il y a éventuellement l'Europe.
La Cour européenne,
Cour européenne des droits de l'homme. Alors, moi, j'ai dit ça, ça a fait rigoler certains. Je leur dis, voilà, on était 11 au départ, il y a déjà 2 morts. Bon, sur les 9, il y en a 2 et on ne peut pas leur reprocher de ne pas aller en appel. Ils sont vraiment dans un état de santé absolument détérioré. On les a vus venir se traîner à la barre. Même, ils étaient normalement même dispensés de venir à la barre. Bon. Que ces gens-là ne fassent pas appel, on le comprend. Tous les autres, tous, on dit, on fait appel. Et moi, j'ajoute, c'est bien, on est 7 à faire appel. Dans 2 ans et demi, 3 ans, combien serons-nous pour entendre le jugement de l'appel ? Peut-être 5.
Bah, tout
et puis après,
c'est vrai que tous les journalistes ont bien noté que les accusés avaient entre 74, 75 ans et 80.
Le plus jeune à 74, ans. Voilà.
Et y a, je ne sais plus si c'est la journaliste de Libération ou du Monde qui a souligné le fait qu'il y ait beaucoup de cheveux blancs dans la salle, essentiellement des cheveux blancs. Je crois que quelqu'un a dit qu'il n'y avait que des personnes du troisième âge dans la salle, alors que c'est un sujet qui ne concerne pas que les personnes très âgées. Je trouvais que c'était un petit peu vicelard.
Alors si on va jusqu'en cassation, on sera peut-être 3-4. Enfin, si je suis toujours là, d'ailleurs, parce que je peux faire partie de ceux qui seront là-haut. Hein. Et quand on arrivera devant la juridiction européenne, on sera tous morts. Voilà. Mais nous, c'est notre souhait le plus fort, c'est de dire, faisons durer ça. Parce que ça nous permet... On a eu une couverture médiatique incroyable au moment du procès. Mais regarde, simplement pour le jugement.
Mmh. Oui, la couverture...
Avait pour une heure et demie. On a eu encore une belle couverture médiatique, à l'exception de ce qu'on disait tout à l'heure à propos du Monde, on y reviendra. Et donc, il faut savoir quand même que sur les quelques semaines de procès, on a enregistré je ne sais combien d'adhésions. Mmh. On avait une secrétaire... Et depuis, on est obligé d'avoir deux secrétaires, parce qu'on n'en sort plus. J'ai eu dans les mains, quelqu'un m'appelle l'autre jour, enfin m'envoie un mail, une adhérente, et elle met son numéro d'adhésion, c'est quand même 7029, si je me souviens bien. Alors, il y en a qui sont morts depuis, hein, bien sûr. Mais c'est dire à quel point le combat qu'on mène est vraiment relayé, et par la presse, et aussi dans l'opinion publique. Moi, j'ai reçu... Vraiment, je ne sais pas combien de témoignages de soutien. Il y a des types... Le jour du procès, il y avait entre 20 et 25 personnes tous les jours sur le parvis. Alors que les flics arrivaient en disant « Vous n'avez pas le droit de manifester. » Alors on disait « Non, on ne manifeste pas, on est présents. »
Il y avait des
tout.
Petits... Voilà. Un petit rassemblement de personnes.
Voilà. Qui... d'information.
Ouais. Et à plusieurs
reprises. Vous informiez.
Et à plusieurs reprises. La salle n'était pas assez grande. Alors, soit on nous faisait reprendre, nous est arrivé qu'on nous dise, on change de salle, parce qu'il y avait toujours beaucoup, beaucoup de monde, et quelquefois on nous a dit, ceux qui ne peuvent pas rentrer iront dans un espèce d'amphithéâtre et ils suivront ça par visio. Voilà. Mais franchement, moi, vendredi, on pensait, on se disait qu'il y aurait des gens qui viendraient, mais là, la salle était pleine, on a encore joué à guichet fermé. C'est quand même incroyable.
Comme le temps file, peut-être dire d'un mot ce que vous avez pensé, effectivement, du traitement médiatique de la condamnation qui a été formulée par la justice. Moi, j'ai regardé, j'ai eu accès à un article de Libération, et puis j'ai pu voir le...
Il est bien,
Libération, il est, je trouve, correct, mais effectivement, rien que le titre de l'article du Monde et la façon de présenter les choses m'a un peu...
C'est choquant.
Ouais, m'a un peu, pour le moins, étonné. C'est-à-dire que, vraiment, la façon de présenter les personnes était à charge, quoi, en fait.
En fait, elle ne fait que répéter ce que dit la présidente. Elle ne se préoccupe pas de savoir ce qu'on a dit, nous,
extrémisme du positionnement. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, on n'entend pas les arguments qui, en revanche, ont pu être développés pendant... pendant le procès, ça c'est vraiment...
Ça charge pas étayé, quoi.
Ah oui. Et il y a eu, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a eu un petit... Je ne sais pas si j'en ai parlé ici. On était en train de boire le café en attendant l'audience avec une avocate qui était là, et plusieurs avocats. Et à un moment, je dis, moi je vous laisse, je vais aller voir les gens qui nous soutiennent, c'est quand même important. Et Michel, mon ami Michel, était resté avec elle. Et à un moment, elle lui dit, est-ce que je peux parler des petits vieux? Alors, il rigole, lui dit oui. Elle, le jour même, en pleine audience, elle est à la barre, et puis d'un coup, elle se retourne et elle dit « Mais regardez les petits vieux, là !» Deux fois de suite. Tout le monde était écroulé, au point que les flics ont dit « On ne manifeste pas ici.
» Oui, là encore, c'est effectivement, c'est gentil. L'article du Monde l'est un petit peu moins.
Oui, non, il y a beaucoup d'articles qui ont été sympas. Même l'Est républicain, qui normalement avait couvert nationalement le procès, n'était pas là, à mon sens. C'est pour ça que j'avais demandé à l'Est républicain de Nancy s'il pouvait faire un article. Et effectivement, il y a un article signé Frédéric Braconneau, qui est tout à fait correct, et qui d'ailleurs rappelle qu'on est condamné chacun à 6 mois avec sursis. Voilà.
Voilà. Donc... à suivre, notamment parce que le sujet va être remis en débat. Alors, je ne sais pas si le reste de l'actualité va permettre qu'on entende bien parler de ce débat-là, puisqu'on va, on a un président des États-Unis qui fait beaucoup parler de lui.
Ah, oui,
on a la question du budget,
puis à l'Iran,
la question l'Iran, la Palestine, toujours victime d'un génocide.
Ouais. Anticipé, éventuellement.
Ou pas les municipales. Ben, voilà. Mais dans ce flot d'informations, eh bien, espérons qu'il reste encore quand même un peu de temps pour traiter ce sujet-là qui nous concerne tous, qui nous intéresse tous. Un dernier mot, Jean-Claude ?
Qui nous concerne tous, je reviens là-dessus, bien sûr, parce que tout le monde, l'ensemble des habitants de notre planète sont concernés, puisqu'on y passera tous un jour. Et parce que c'est quand même rare. Quand on se battait pour l'IVG, on se battait pour, 30% ou 20% de la population éventuellement, etc. Là, ça concerne tout le monde. Donc, normalement, on peut estimer qu'il est souhaitable qu'on reste sur cette actualité. Il faut aussi préciser...
Alors, je pourrais discuter quand même de cette histoire que l'IVG ne concerne pas tout le monde.
Attends, je parle des femmes enceintes qui ont décidé... ça concerne bien sûr aussi leur conjoint, pourquoi pas. Mais c'est, en tout cas, c'est un droit fondamental de la femme. Et or, il n'y a pas 51% de femmes enceintes tout le temps en France. C'est bien
on
ce
est
que
d'accord.
Je voulais dire, simplement.
Il y en a qui en rêvent en ce moment. Hein.
Bien, messieurs, je vais vous laisser discuter du sujet. On va se quitter en chanson avec une très belle reprise d'une belle chanson de Brigitte Fontaine, une reprise par Zao de Sagazan. Qui s'appelle « Oh que la vie est belle ». À très bientôt sur RCN. Merci encore, Joris.
Des roses de cristal crissent et s'amollissent. Mon amour sans rival murmure des délices. Prends ma taille ronde et ronronne sur elle. Pour jouer, je lui gronde des menaces cruelles. L'opéra de vermeil s'échappant du laser emplit l'air de soleil et d'ombre passagère. Mais à que la vie est belle, soudain elle éblouit comme un battement d'aile d'oiseau de paradis. Mais à que la vie est belle, quelquefois pour un rien. La divine immortelle dans le mal et le bien. On marche dans l'hiver, brillant comme une abeille, brillant comme un éclair qui dure et émerveille. La joie nous souffle au cœur, chérit l'univers comme un enfant de cœur, son dieu des terres de chair. Loin des bombes et des balles, goulu comme un bébé, sensuel on inhale la fumée adorée. Mais à que la vie est belle, soudain elle éblouit comme un battement d'aile d'oiseau de paradis. Mais à que la vie est belle, quelquefois pour un rien, la divine immortelle dans le mal et le bien.